Il y a les photos de leurs petites têtes qui remplissent nos téléphones. Les photos qui décorent tous nos murs. Il y a les « Ah, tu trouves qu'ils me ressemblent ?» Il y a la recherche du biberon parfait, les allaitements difficiles, les nombreuses tétines portées disparues. Bref, vous savez toutes ces petites choses qui font la vie en version parent. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un couple que vous adorez suivre sur les réseaux sociaux. Alexandre et sa femme Marianne sont plus connus sous le nom de Papa et Maman Plume et sont suivis par plus de 257 000 personnes sur Instagram. Et aussi par deux enfants. Oui, qui les collent en permanence pour leur plus grand bonheur, Ambre et Swan, 5 et 2 ans. Nous avons voulu un couple pour parler parentalité, pour avoir les deux versions, les deux perceptions d'une même situation. En plus, Alexandre veut faire entendre la voix des parents engagés, notamment pour la réforme du congé paternité. Donc redéfinissons ensemble le couple homme-femme en 2023. Je m'appelle Carole Tolila, je suis journaliste, maman de deux enfants et comme Marianne et Alexandre, j'ai le mode parent activé. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Salut Carole.
Je suis trop contente de vous avoir ce matin parce que je crois que c'est la première fois que vous faites un podcast tous les deux ensemble.
Et oui, première fois.
Alors, pour qu'on soit un peu prévenu d'avance, est-ce qu'il y a un risque de fight, d'engueulade, ou vous êtes plutôt un couple cool ?
Je crois qu'on est cool, mais il y a un risque d'engueulade très clair.
Alors attention, Je vais devoir compter les points ce matin. Non, mais je suis sûre, parce que vous avez l'air tellement complice sur Instagram, et puis je vous connais un peu par ailleurs.
Instagram, c'est que du fake. À la maison, on s'embrouille tout le temps, tu vois. Faut bien qu'on vende une image un peu de rêve. Mais...
Eh bien justement, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Vieux couple ou nouveau couple ?
Là, tu vois, tu commences mal parce que vu que je peux pas te répondre à la question.
Quelle année ?
Bah 2010, hein. Bah du coup, bah 13 ans.
Alors on va justement parler de la rencontre. On remonte en 2010. Est-ce que Alexandre, tu peux nous raconter quand tu as vu Marianne, ce que tu as ressenti et comment ça s'est fait tout ça ?
Alors déjà, je n'ai pas vu Marianne, j'ai vu un pseudo. Et oui, car j'étais au Qatar quand on s'est rencontrés virtuellement. J'étais en stage au Qatar depuis le mois de janvier, donc 2010.
D'accord.
J'étais célibataire, je sortais d'une relation très longue et mon cœur avait été émietté. Voilà.
Donc, t'avais eu mal.
J'avais eu très mal. Voilà. Et au Qatar, il n'y avait pas beaucoup de filles, on va dire. Et du coup, je préparais mon retour, on va dire, sur Paris.
Le gros comeback. Attention,
voilà,
j'arrive.
Le gros comeback. Et donc, je suis allé sur Adopt,
okay.
Qui à l'époque s'appelait Adopt un mec. C'était surtout pour juste parler à des filles. Juste ça. Parce que vraiment, au Qatar, j'étais tout seul.
Seul.
J'étais vraiment seul, en fait. Hein. J'étais seul. Voilà.
D'accord. Pas d'amis pas...
Si, j'avais mes collègues, mais qui n'avaient pas le même âge que moi. J'avais 22 ans, un truc comme ça. Et mes collègues étaient plus âgés. Donc, je m'entendais très bien avec eux. Mais c'est pas des relations que t'as avec des potes ou tu vois, je sortais pas en fait. Genre tous les jours, je me couchais, il était 9h30. Enfin bref, voilà, j'avais une vie un peu monocale. Du coup, je vais sur Adopt. Puis au bout de 2-3 jours, je tombe sur un profil, donc une jolie blonde. Dans son profil, ce qui m'a le plus attiré au départ, c'est qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe. Elle s'était écrit nickel. Elle était très jolie, c'était bien écrit, machin. Et donc j'ai dû lui envoyer une demande. Et elle a accepté parce que,
et là, la suite de l'histoire avec Marianne.
La suite de l'histoire. Parce qu'il était beau gosse, déjà, quand même. Et surtout, en fait, il avait un pseudo. C'était Alex Gem. G-E-M. Et en fait, c'est le nom de notre école de commerce. Et gros hasard de la vie, en fait, on faisait la même école.
Non, mais attends, vous étiez jamais croisés ?
On s'était jamais croisés.
On a un an d'écart, donc moi, j'ai un an de plus. Tu peux pas être dans le même amphi au même moment. Et puis, en fait, c'est des énormes promos. Tu vois, ouais. On est
genre, non, mais genre en soirée, on peut être en même...
En soirée, t'es bourré, tu vois rien.
Donc là, en fait, vous vous rencontrez une fois que tu rentres à Paris, c'est ça ?
Ouais.
Alors, bah, du coup, on se parle pendant 3 mois, sans se voir, sans faire de vidéo, rien. Donc, on ne sait même pas le son de notre voix, quoi. On s'écrit d'abord sur, Adopt et ensuite via MSN. Je l'ai aidé à faire ses devoirs d'anglais.
T'as vu, il parle beaucoup, hein, je t'avais prévenu.
Enfin, bref. Et donc, du coup, bah, en effet, on s'est rencontrés quand je suis rentré le 1er juillet.
Alors,
le
2
juillet.
Donc, là, ce jour-là,
ouais.
Est-ce qu'il y a eu bisous direct ?
Il y a eu la totale.
Ah, ok. J'en demandais pas tant, mais tant mieux, ok, on est prévenus. Donc là, vraiment, vous étiez déjà amoureux, en fait, avant de vous connaître corporellement.
En fait, moi, j'ai su que j'étais amoureuse quand on s'est écrit. Il y a un jour, je sais pas, mon cœur, il a fait bam.
Parce que j'écris super bien, hein. J'écris des bouquins, moi je sais, tu vois.
T'adores écrire, t'adores les mots.
Non mais surtout le fait d'écrire, en fait, tu rentres profondément dans la personne, t'as pas l'image, t'as pas le son, t'as juste ce que la personne pense en fait. Bah, ça te permet juste
de savoir
vraiment qui il est. Et d'ailleurs, gros hasard aussi, ses grands-parents se sont rencontrés comme ça. Donc voilà, comme
par adopte un mec.
En 1950,
oh là là,
ils étaient comment on appelle ça
C'était une relation épistolaire, tu sais, quand mon grand-père était en Algérie pour la guerre, et du coup, bah, à l'époque, tu pouvais écrire à des filles que tu connaissais même pas, quoi, des lettres, et elles te répondaient, puis tu avais une correspondance comme ça
pour maintenir le moral des troupes.
Ouais, exactement.
Alors, moi, j'ai très envie d'avoir une autre anecdote, parce que vous avez l'air d'être très petites histoires, donc moi, ça me plaît, ça. Il paraît qu'une fois ensemble, vous êtes partis directement en vacances naturistes pour un mois. Faut m'expliquer cette info qu'on m'a soufflée.
Bah oui, en effet.
Comme vos grands-parents. Comme tes grands-parents, comme tes grands-parents, en fait.
Non, mais effectivement, déjà, le lendemain de notre rencontre, je rencontrais ses parents.
D'accord.
Et sa sœur.
Ah ouais, ça va vite.
Ouais,
quoi.
Ça va vite. Chez nous, on décide un truc direct. Et c'était l'été. Et moi, mes parents, effectivement, avaient une maison sur une île voilà, naturiste. Et Alex, il a suivi. Il m'a dit, viens, je pars en vacances avec toi. Donc, on est partis quasi.
Donc, attends, Alex, t'as rencontré tes beaux-parents nus pour la première fois?
Non.
Presque.
C'est génial.
Ça va tout de suite. Du coup, tu vois, tu n'aurais pas de barrière, quoi.
Bah, là aussi, hein, on est direct dans le sujet.
On est direct dans le sujet, quoi.
Parfait. Alors, on va revenir à la construction de parents, qui est le but de ce podcast aussi. Quand vous commencez à parler bébé, du coup, vous construisez votre couple. Est-ce que vous vous mariez d'abord? Est-ce qu'on parle mariage avant bébé chez vous? Comment ça se passe pour vous?
On s'est marié d'abord, mais on ne s'est pas marié tout de suite. On s'est marié.
Il a vachement attendu.
Combien de temps t'as attendu, Alex?
6 ans. Enfin, 5 ans avant de faire ma demande.
Parce que t'étais pas sûr?
Si, j'étais sûr, mais...
Alors, en fait, il voulait pas être le premier de ses potes.
Du coup, j'étais le deuxième.
T'as attendu,
ouais.
Ok.
Bah, bon, ça va, on s'est mariés, elle avait 27 ans, moi 28, c'est un bon âge pour se marier, tu vois, c'est pas non plus...
Toi, Marianne, t'attendais avec impatience?
Ouais, clairement, mais il m'avait fait comprendre que, voilà, il devait être prêt, que c'était quelque chose de super engageant, et le jour où il le ferait, ce serait vrai.
D'accord.
Voilà. Puis j'ai bien fait les choses.
Ouais, t'as bien fait les choses.
T'as l'air trop fier de toi.
Bah déjà, je suis fier de moi sur le coup de la bague.
Pourquoi ?
Marianne est quelqu'un qui adore les bons plans. Donc, pour elle, c'est plus important, limite, la manière dont je fais les choses que le résultat du truc.
Ok.
Et donc, du coup, j'ai demandé à son papa de l'aide pour trouver une très belle bague aux enchères. Donc, le fait que j'ai fait ça avec son papa, qu'on a écumé les ventes aux enchères, qui m'a aidé à trouver la bague parfaite à un prix ridicule par rapport à ce qu'on aurait payé en bijouterie, bah, ça l'a vachement touché, quoi.
Et par contre, quand est-ce qu'on commence par les bébés? Et qui commence à en parler?
On a toujours su qu'on voulait avoir des enfants. Après, fallait le bon moment.
Nous, on voulait vivre notre vie de couple.
D'accord.
Avant d'avoir un enfant. Donc, on a beaucoup, beaucoup voyagé. Tous les ans, en fait, avant d'avoir les petits, on partait quelque part dans le monde parce qu'on adore ça. Puis, tu vois, on sortait pas mal avec nos potes. Enfin,
on voulait profiter
de ta liberté. En fait, on voulait vivre notre vie de jeune couple.
Ouais. Ok.
Et puis, moi, je travaillais énormément aussi. C'était hyper important pour moi. J'avais pas forcément
Tu te réalisais énormément par ton travail.
Ouais,
t'avais pas envie à ce moment-là, effectivement.
J'ai un collègue qui m'a dit, mais Marianne, toi, t'adores bosser. Et c'est vrai, j'ai besoin de ça. C'est hyper important pour moi, en fait. Et du coup, il y a eu des moments où c'était pas le moment d'avoir des enfants. Et puis, à un moment, c'était une évidence. Mais on a toujours été raccord dans toutes nos décisions. Mais effectivement, tu vois, je suis tombée enceinte. J'avais 25 ans et j'étais pas prête. Du tout. Donc, ce jour-là, j'ai décidé de ne pas poursuivre la grossesse.
C'est délicat comme, effectivement, comme décision, parce que là, vous êtes ensemble, t'es amoureuse.
Ouais, on venait d'acheter notre appart, on venait de commencer à bosser.
On avait envie de faire d'autres choses, en fait.
Et moi, j'avais pris ma décision. Alex, il a toujours suivi, il a toujours été un grand soutien. Mais un enfant, on doit l'accueillir dans de bonnes conditions.
Et là, t'étais pas prête.
Et j'étais clairement pas prête.
Donc, t'as fait ce choix-là.
J'ai fait ce choix.
Est-ce que ça a été difficile pour toi, cette interruption volontaire de grossesse?
Émotionnellement, non. Enfin, oui, quand même. Je suis quelqu'un de très émotionnel, donc si. Mais je veux dire, j'étais sûre de moi.
Ouais.
Tu vois, j'ai dans toujours fait tête, les rendez-vous et tout. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très douloureux, le parcours médical qu'on te fait suivre quand tu veux faire une IVG ou limite on remet en cause ta propre décision, alors que j'étais vraiment... Enfin, moi, quand on m'a annoncé ça, j'étais en pleurs. Je me suis dit, mais jamais j'ai envie d'avoir des enfants, en me souvenant que j'étais en pleurs de tristesse parce qu'on m'annonce que je suis enceinte. Enfin, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est quelque chose... J'étais sûre.
C'est courageux d'en parler, parce que c'est vrai qu'on n'ose pas toujours, on culpabilise beaucoup.
Non, c'est vrai
beaucoup.
Que j'avais... Enfin, on n'en a jamais vraiment parlé. C'était un peu... Parce qu'en fait, c'est encore plus tabou, je trouve, que les fausses couches. Tu vois, les fausses couches, on a déjà pris la parole dessus.
Ouais.
Beaucoup de personnes le savent. Alex, il a écrit des textes magnifiques sur la fausse couche, parce que j'en ai fait plusieurs. Et ça aussi, c'est super dur, parce que tu vois, suite à... Bah, après avoir fait une IVG, tu fais des fausses couches, tu culpabilises a posteriori, tu te dis, mais attends, est-ce qu'un jour je serai maman? Est-ce que j'ai pris genre la pire décision de ma vie, en fait, au moment où j'étais sûre de moi? Donc ça, c'était pas un parcours facile.
Tu te mets à regretter, effectivement, peut-être.
Je me mettais pas à regretter la décision que j'avais prise sur le coup.
Mais de toute façon, tu n'as pas laissé passer ta chance, tu n'avais pas à regretter, puisque tu étais sûre de toi, mais aussi parce que finalement, après, tu as eu Ambre. Mais on va quand même parler de cette fausse couche, parce que ça, c'est important. Enfin, notamment, tu en as eu deux, et je sais qu'Alexandre, tu avais très mal vécu la deuxième.
Oui, parce que la première, je me rappelle qu'elle est arrivée assez vite, et que je n'avais pas eu vraiment le temps de me projeter. La deuxième, je m'étais vraiment, vraiment projeté.
En fait, on s'était projeté sur l'annonce aux familles.
Voilà, moi je m'étais déjà imaginé comment j'allais l'annoncer à mes parents, j'allais acheter des petits chaussons de bébé, de trucs, et je m'étais dit, putain, ça va être un Noël, à la fois, ça me stressait beaucoup de l'annoncer, et à la fois, je me disais, putain, ça va être un Noël incroyable, tu vois, quel plus beau cadeau
ouais.
Tu puisses faire à tes parents que leur annoncer qu'ils vont être grands-parents, quoi.
Tu vas les surprendre.
Il n'y a pas de plus beau cadeau. Et du coup, tu sais, tu t'imagines tout un tas de choses, et brutalement, ça s'arrête. Et après, en fait, tu passes de... un espoir un peu lumineux comme ça, à de la tristesse, à de la peur, parce qu'en fait, c'était pas juste une fausse couche, c'est qu'on a une suspicion de grossesse extra-utérine. Je me rappelle, parce qu'elle m'avait soulagé en me disant non, c'est pas ça. Donc en fait, moi, je suis passé de oh, merveilleux, truc,
ouais,
à tristesse, à peur, et puis soulagement. Soulagement,
ouais,
de me dire c'est pas un truc grave.
Beaucoup d'émotions, en fait, mélangées.
Tu passais en peu de temps, et je me souviens que on fait un aller-retour chez la gynéco. Elle nous dit, bah voilà, elle est enceinte, machin. Donc là, franchement, on est heureux. En plus.
Donc là, c'était la deuxième fausse couche. Donc ouais, c'est vrai que là, tu
il
commences
neigeait,
à te
tu vois,
dire...
T'as un côté un peu magique
ça
et
y est,
tout.
Ça a marché, quoi.
Ouais, et quelques jours après, Marianne qui me renvoie, du coup, parce que le taux de, je sais plus comment on appelle
HCH.
Ce taux. Ouais, voilà, qui chute. Du coup, c'est pas normal. Et moi, du coup, je me revois très bien en train de retourner chez la gynéco avec ce papier qui montre que le taux est pas du tout normal, avec dans mon estomac une sensation vraiment très différente de ce que j'avais, tu vois, quelques jours auparavant. Et je me souviens de ce trajet où, au début du mois de décembre, il fait très froid, il pleut, et je me sens tout petit, tout rapetissi, tu vois. Et j'ai ces sensations vraiment dans le corps, quoi.
Franchement, c'était une semaine
horrible,
atroce.
À
Je crois que c'est une des pires
oublier.
semaines de notre vie. Bah, j'ai encore la date, en fait, en tête de la fausse couche. Donc, pour te dire...
Ça t'a marqué. Et tu dis d'ailleurs sur un de tes posts, fausse couche, vraie douleur. Et c'est vraiment ça. C'est vrai qu'en plus,
c'est
on
hyper
cache
tabou.
Un petit peu sa grossesse pendant 3 mois. Donc, on vit seul cette fausse couche.
En fait, tant que t'es pas dedans, tu sais pas que ça peut t'arriver d'avoir une difficulté à tomber enceinte. Et moi, c'était pire parce que c'était pas tomber enceinte qui était dur, c'était garder le bébé. Et ça, c'est un tabou un peu aussi. C'est que on parle beaucoup de FIV. Et j'ai des copines qui sont dans ce parcours, et là, je leur envoie toutes les ondes possibles,
ouais,
et inimaginables. Mais on parle pas beaucoup justement de ces fausses couches aussi à répétition. Et en fait, ils te font les examens au niveau médical qu'au bout de 3 fausses couches. C'est-à-dire que c'est normal, en fait, en France, c'est normal dans le monde de faire des fausses couches. Et on en parle, alors maintenant un petit peu plus, mais en tout cas en 2018, on n'en parlait pas. Et du coup, tu tombes des nues, quoi. Et ouais. C'était une période hyper douloureuse de ma vie. En plus, il y avait beaucoup de stress au boulot aussi. Donc, c'est vrai que tu n'en parles pas au niveau du travail parce que tu as peur de se faire sortir, hein, clairement. Alors que pourtant, j'étais en CDI depuis super longtemps, que ça se passait pas
oui,
bien dans ma boîte.
On a toujours peur d'être mise au placard parce qu'on est enceinte. Ou...
En France, c'est une folie. Hein.
Ah bah c'est sûr, c'est un vrai problème encore.
Ouais.
Et le stress que tu as ajouté à ta grossesse,
ouais,
à tout
ouais,
ce qui
ouais,
se passe en toi, mais en plus de devoir l'annoncer au travail, c'est très compliqué.
Ouais, et puis en plus, moi, il y a un autre truc, c'est que je suis très malade quand je suis enceinte. Mais genre, pas un peu, très malade. Genre pendant...
Nausée.
Mais nausée, mais pendant 6 mois. Alors, il y en a qui vont jusqu'au bout. Et, franchement, ouais. Big up à celles qui ont des nausées jusqu'à
pendant
l'accouchement.
9 mois, ouais.
Mais moi, pendant 6 mois. Et franchement, 6 mois à être malade, à vomir, ouais. à nauser, etc., c'est super dur. Donc, en fait, dès les premiers symptômes, moi,
faudrait
je suis...
que tu sois arrêtée,
ouais,
en fait.
Ouais, limite.
Et tu peux pas.
Mais c'est pas possible. C'est
ouais.
pas possible.
Alors justement, tu dis dans un post, on n'oublie pas, jamais, chaque début de grossesse ne sera plus paillettes et joie, mais retenue et angoisse. Donc ça résume vraiment ton état d'esprit encore aujourd'hui. Comment tu as vécu alors ta grossesse pour Ambre? Tu disais tout à l'heure, ta peur, c'était de garder le bébé. J'imagine que là, tu avais pas mal d'angoisse.
Alors, je suis quelqu'un d'assez intuitive. Quand j'ai fait cette fausse couche, du coup, un peu plus tardive, en fait, tous les mois, je retombe enceinte. Et arrive mon anniversaire. Je refais un test de grossesse. Je suis enceinte. Je l'apprends le jour de mes 30 ans. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ça ne peut pas se passer autrement. C'est mon bébé.
Ouais.
Et puis voilà, j'ai fait un rêve de ma grand-mère qui m'annonçait que j'allais avoir une petite fille. Ma grand-mère qui est décédée. Et je me dis, c'est sûr, je vais avoir une petite fille. Du coup, ce soir-là, on fait la fête. Et je l'annonce à Alex, en pleine soirée, avec nos potes. Grosse, grosse fête, du coup, pour mes 30 ans. Il n'a jamais autant bu de sa vie.
Je me suis dit, pas passé en fait... comme ça, mon chat, tu ne me l'as pas dit pendant la soirée.
Si, mais tu t'en souviens pas, en plus.
Alors, moi, j'ai entendu sur un podcast ta version, Alexandre. Alors... C'était drôle parce qu'en fait, effectivement, ce n'est pas ce qui a été dit pendant l'autre podcast.
Je m'en souviens.
Mais tu as dit qu'à cette soirée, tu avais beaucoup bu. Donc
oui,
peut-être qu'effectivement,
en fait.
Voilà, peut-être qu'effectivement, ouais. elle te l'a dit, tu ne t'en souviens pas. Mais raconte ta version.
Bah moi, ma version, c'est que ça faisait plusieurs jours que je remarquais un truc différent chez elle sans vraiment pouvoir mettre de mots dessus. Mais mon intuition était là, quoi. Il s'est passé un truc. J'ai eu un mélange de peur. Qui m'est tombé dessus comme un tsunami, quoi. La peur qu'elle soit enceinte et qu'on refasse une fausse couche,
ouais.
et la peur qu'elle soit enceinte et que ça marche. La peur de devenir papa. Et donc, je décide tout simplement d'ignorer le fait pendant quelques semaines. Donc, je me barricade, je me dis, elle est peut-être enceinte, elle est peut-être
protégée.
Pas, j'en sais rien. Moi, je vis ma vie comme si de rien n'était. Mais tout a changé la première fois que j'ai entendu son cœur dans le cabinet de la gynéco. Où là, je suis arrivé vraiment détaché de moi-même. Mais détaché parce que, dans le fond, j'avais un océan de sentiments. Moi, je suis un...
T'avais envie d'être père.
Je suis un ultra sensible.
Ouais.
Donc, en fait, quand je cache mes sentiments ou quand je les bloque, c'est qu'à un moment, je sais que tout va jaillir. Et puis, Marianne s'allonge, puis elle passe l'échographe sur son ventre. Et moi, je regarde d'un œil un peu distrait ce qui se passe sur l'écran. Puis, en effet, on voit quasiment rien. Ça, c'est juste un petit point, quoi. Et puis, d'un coup, t'entends tac, 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 tac. Et là, je comprends pas ce que c'est au départ. Après, je comprends que c'est des battements de cœur. Je me dis que c'est ceux de Marianne qui est très stressée. Après, je comprends que c'est pas ceux de Marianne. Et là, bah, je me dis, putain, quoi, tu vois.
Comment ça se passe, cette rencontre avec ta fille?
Bah, c'est ma fille, quoi. Toi, c'est marrant parce que moi, je voulais vraiment... Je sais pas pourquoi je voulais une fille. À tout prix, quoi. Déjà, quand on m'a annoncé que c'était une fille...
Ton rêve est exaucé, quoi.
Mon rêve est exaucé. Donc déjà, premier choc. Et après, bah, la naissance... Ma fille, quoi, tu vois. Bah, moi, c'était le coup de foudre immédiat.
Ton attachement s'est fait le premier jour.
Immédiat.
En fait, quand elle est sortie, je sais pas, il y a eu une boule d'amour, d'énergie. Enfin, c'était dingue, en fait. C'était un moment.
Elle était belle, quoi.
Elle était toute rose. Non, mais franchement, j'ai des photos, je vous montre. Ma fille, elle était. C'était une poupée corolle.
J'avoue, encore aujourd'hui, elle est très, très jolie, votre fille.
Ouais.
Et puis, avec un regard. Tu sais, ce regard des bébés ultra perçant. Qui se plonge dans le tien et puis, je sais pas, il y a une connexion qui se passe et tu sens que c'est un être intelligent, sensible, enfin...
Et tout de suite, je me suis dit, je donnerais tout pour toi, t'es tout pour moi.
Et arrive Swan après, en 2021.
Ouais.
Tu voulais un garçon du coup, pour le deuxième?
Après, je m'en fichais. Fille ou garçon, j'avais eu ma fille, donc maintenant, deux petites filles, ça m'allait, un garçon et une petite fille, ça m'allait très bien aussi, j'avais pas de préférence.
Et est-ce que vous retrouvez à chaque fois votre équilibre de couple? Parce que c'est bouleversant, une naissance.
Ça vacille, hein. C'est pas facile. Hein.
Ça évolue,
ça évolue. T'as des moments où c'est plus dur que d'autres. Suite à Swan, ça a été compliqué quelques mois. Parce que moi, je trouve que passer de 1 à 2, c'est encore plus compliqué que de passer de 0 à 1.
Quand t'as un enfant, en fait, on pouvait se relier, vraiment. Alors que quand t'as deux enfants, Bah, il y a un côté, tous les deux sont occupés. Et en fait, tes moments de repos, bah, c'est juste éphémère, on va dire.
Très rapide.
Très rapide. Dors quand bébé dort. Et comme bébé ne dort pas, bah, tu ne dors pas.
Ouais.
Donc voilà. Non, il y a un côté, voilà. Donc je ne sais même pas comment font les parents de plus de deux enfants, du coup. Ambre, elle a, c'était une petite fille, elle avait 2 ans et 9 mois quand son frère est arrivé. Ça reste un petit bébé encore.
Ouais.
Enfin, même si c'est un enfant, faut prendre le temps. Donc, nous, c'était vraiment le tsunami, c'était deux enfants.
On arrive à la question cruciale qui guide un peu tout ce podcast. Est-ce que ça a changé votre vie d'avoir les enfants, Alexandre ?
Bah, oui, la preuve, on est là. Je ne serais pas en train de faire ce podcast on n'avait pas eu d'enfants. C'est marrant parce que il y a quelques temps, j'ai fait un événement aux côtés de Absatoussi sur le fait de se réaliser, comment tu peux te continuer à avoir des rêves et faire des projets et réussir à te réaliser tout en devenant parent. Et comment est-ce que tu peux concilier tout ça et que le fait de devenir parent, comment faire en sorte que ça ne devienne pas un frein, tu vois, à tes envies personnelles, quoi. Et moi, ce que j'ai réalisé lors de cet événement en prenant la parole, et je ne l'avais pas vraiment réalisé avant, c'est que non seulement ça n'a pas été un frein, mais qu'en fait, ça a été un catalyseur et que mes enfants n'ont pas freiné ma réalisation, mais qu'ils m'ont permis de me réaliser, en fait, sur tous les plans, quoi. D'abord, d'un point de vue intime, en tant que homme et être humain, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai des enfants. Quand je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève. Je me lève parce qu'en fait, j'ai juste envie de les voir. J'entends un petit bruit à un papa qui m'appelle, mais qu'il soit 5h, 5h30, 6h, je me lève avec la banane, tu vois.
parfois, je râle.
Bon, parfois, je râle et il m'arrive d'être éclaté et de me lever avec pas forcément la banane. Mais tous les matins, je suis heureux de les voir. Tous les matins, je pars du travail, je suis heureux d'aller les chercher. Et même si parfois, ils me rendent dingue, même si parfois, tu vois, je vais les chercher à 18h, à 18h20, j'ai envie de les coucher, malgré tout, mes enfants, c'est mes étoiles, c'est mes soleils, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai vécu mes 30 premières années de vie en préparation de ça.
Ah, c'est beau.
Mais parce qu'en fait, j'ai une âme très enfantine et romantique.
Donc, ça veut dire que tu te doutais de ton sens de la paternité ?
Je le savais. Depuis toujours, je savais que je deviendrais papa. Enfin, non, je ne le savais pas,
et
mais
j'avais
envie.
Tu serais autant impliqué et
oui,
autant
ça,
sous le charme de tes propres enfants.
C'est pour ça qu'en fait, il fallait attendre le bon moment parce que je savais que le jour où j'allais devenir papa, je m'investirais à 200%.
Il s'est tellement investi qu'il a même contribué à allonger le congé paternité. Donc,
oui,
tu vois,
alors c'est... ça, je voulais en parler. Tu me fais ma transition. Mais c'est vrai que tu t'es engagé pour le congé paternité parce qu'au moment où tu as eu Ambre,
ouais,
il y avait 14 jours en France, c'est-à-dire 3 jours pour la naissance plus 11. Et aujourd'hui, on est passé à 28 jours parce que tu t'es battu aussi. Tu as été vraiment porte-parole de ces familles qui veulent être engagées.
En fait, quand Ambre est née, ça a été pour moi un tremblement de terre qui a poussé des élans en moi. Le congé paternité, c'est un de ces élans. Le fait d'écrire sur ma paternité, ça a été un deuxième élan. Tu vois, j'ai créé mon compte Instagram à cette époque pour parler de ça. Tout ça, je ne peux pas le dissocier parce qu'en fait, je me suis investi sur ce sujet grâce aux réseaux sociaux.
Ouais.
C'est d'abord sur Facebook et sur Instagram que j'en ai parlé. Ensuite, on a fait des médias, on a fait un collectif et tout ça, mais c'est via les réseaux sociaux que ça s'est passé.
Ça a commencé, bien sûr.
Et donc, c'est grâce à Papa Plume, en fait.
Mais alors, pourquoi ? Ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est-à-dire que quand tu as eu Ambre,
ouais,
tu es retourné travailler,
ouais,
tu n'étais pas bien, en fait. C'est-à-dire que toi, tu voulais rester avec ta femme et ta fille.
Ben oui.
Et tu t'es dit, c'est pas normal.
Ben exactement. En fait, moi, je ne suis pas quelqu'un de foncièrement engagé à la base. Tu vois, jusqu'à ce que je devienne papa, oui, je triais mes poubelles, mais je me suis jamais engagé politiquement. Voilà. Et oui, je me souviens très bien, le jour où je reprends le travail, ça va être fin novembre, je me revois sur le quai du RER, il pleuvait, il faisait moins 15, à me dire, qu'est-ce que je fais là ?
Je dois être avec ma fille.
Bah ouais, en fait, je dois être avec ma fille, avec Marianne. Tu vois, en plus, elle avait un accouchement, elle avait subi une petite opération, donc il fallait qu'elle reste quand même allongée au maximum. Qu'est-ce que tu veux qu'une maman, elle se repose en étant toute seule à la maison ? Tu vois, c'est pas possible. Et puis en plus, c'est lors de ces premières semaines où tu crées tes premiers liens avec ton bébé.
Toi, tu voulais rien manquer.
Tu deviens sa figure d'attachement, l'une de ses figures d'attachement. Et moi, je voulais rien manquer de tout ça. Je voulais apprendre à la connaître. Je voulais qu'elle apprenne à me connaître. Je voulais être à la maison, pas pour aider, mais genre pour faire
c'est
ma part.
C'est tellement
tout simplement.
Court, 14 jours.
Voilà. Et donc, je me suis dit, un truc qui cloche, là, c'est pas possible. J'ai mis un peu de temps avant de m'engager. Hein, tu vois, je l'ai pas fait tout de suite. je crois que j'ai écrit ma lettre ouverte en octobre de l'année d'après. Donc, tu vois, j'ai mis quasiment un an avant de le formuler, et comme si j'avais besoin de recul par rapport à tout ça.
Et puis, tu apprenais ton rôle.
Puis, j'apprenais mon rôle. Et puis, voilà, en octobre 2019, j'ai fait une lettre ouverte sur Facebook. Voilà, j'avais pas la communauté que j'avais aujourd'hui, mais j'avais quand même une petite communauté. Après, c'est parti, quoi. J'ai fait un premier média, un deuxième, on a fait notre collectif, on a rencontré le gouvernement. Et
il y avait plein d'assos aussi qui portaient le sujet.
Bien sûr, ça faisait des années, ouais,
il y avait des
assos qui portaient le truc.
Finalement, là, c'était le bon moment. Et
ouais,
effectivement,
bon moment.
Vous avez pris la parole et ça a été très soutenu. Et finalement, ça a été écouté.
Il y a eu d'autres papas, en fait, aussi qui ont porté, tu vois, ce besoin, tout simplement. C'était vraiment le bon moment, en fait, pour appuyer le petit coup d'accélérateur.
Donc, bravo. Depuis le 1er juillet 2021, il y a eu des changements, mais je crois que ça ne te satisfait toujours pas.
non.
Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, toi, tu aimerais que ce soit partagé, qu'il y ait un quota et qu'on partage entre l'homme et la femme, finalement.
En fait,
qu'on choisisse.
Je ne sais pas quel est le modèle idéal et s'il existe un modèle idéal, mais ce qui est sûr, c'est que plus le congé paternité sera long, plus il se rapprochera du congé maternité, qui lui-même, à mon avis, est trop court, plus on se dirigera vers une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Tu vois, même d'un point de vue professionnel, rien qu'à l'embauche, en fait. Si les pères et les mères à venir s'absentent la même durée une fois que le bébé est né,
c'est là où
t'arrêtes
y a
de discriminer les futures mamans.
Ouais.
Tu vois, dans 99% des cas, la maman va se retrouver seule à un moment donné avec son enfant, quand le papa va retourner travailler.
Tout à fait.
Le papa, il est quasiment jamais seul avec son enfant. Et du coup, moi, je pense que pour se rendre compte vraiment de ce que c'est de s'occuper d'un enfant, il faut s'en occuper seul et être mis face vraiment à ses responsabilités. Moi, les quelques fois où j'ai été seul avec Ambre, parce que Marine faisait aller chez le coiffeur ou faisait un truc avec ses copines, j'étais en mode, oula, ouah, il se passe quoi? Tu vois, parce que j'ai plus ma roue de secours, en fait. Tu vois, il se passe un truc, je suis tout seul, je dois gérer tout seul. Mais un papa seul un ou deux mois avec son enfant, je suis sûr que ça changerait les choses en profondeur dans nos sociétés, quoi.
Donc, le combat continue. On va revenir sur ton profil d'écrivain. Tu as écrit 2 livres et un troisième vient de sortir. Je ne m'attendais pas à ça, qui est sorti en janvier 2021. Le Temps Bleu en mai 2023 et L'ABC Père qui vient d'arriver. À chaque fois, c'est quand même des histoires de famille, j'ai l'impression.
C'est des histoires de famille, en tout cas pour les deux premiers, qui ont un même socle qui est l'amour. Et la relation entre un papa et sa fille, tu vois, je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment c'est un témoignage intime.
C'est sur toi, c'est ta vie.
C'est sur moi, mes deux premières années
avec ta fille.
Avec ma fille. Et Le Temps Bleu, c'est l'histoire d'un... C'est un roman chez Michel Lafon. C'est l'histoire d'un papa prêt à tout pour sa fille et d'une fille prête à tout pour son papa. Quand, 50 ans plus tard, elle apprend qu'il est atteint d'Alzheimer. Donc c'est vraiment deux chemins de vie, tu vois, qui se croisent et s'entremêlent. Mais la fondation de ces deux livres, c'est vraiment l'amour, quoi. Et c'est l'amour que j'ai ressenti à la seconde où j'ai vu Ambre, tu vois, sortir du ventre de Marianne. Et c'est l'amour que je vois tous les jours dans les yeux de ma fille quand elle se réveille, quand elle me voit venir la chercher à l'école. Et tout ça, en fait, je le pose en mots, que ce soit même sur mon compte Instagram ou dans mes bouquins. C'est, je pense que je suis tellement baigné d'amour. Et l'ABC Père... l'ABC Père aussi, parce que, en gros, c'est quoi si on a pris 100 définitions de la vie de parent. Je le fais avec Yannick, qui est un illustrateur connu aussi sur les réseaux. Et puis, je me suis amusé à écrire des petites définitions, tu vois, sur ces 100 mots, mais qui peuvent aller de tchoupi à amour, tiens, c'est
tu
une des définitions.
Tu t'es amusé sur celui-là.
À allaitement, enfin voilà, je me suis amusé. Mais il y a de l'amour aussi, tu vois. Et oui, moi, je m'épanouis en tant qu'écrivain, grâce en grande partie à mes enfants et à ce qu'ils apportent à mon intériorité, quoi. Et je pense que j'ai écrit beaucoup de livres avant d'être édité chez Larousse et puis chez Michel Lafon, des bouquins. J'en ai auto-édité 2 sur Amazon qui ont vécu leur petite vie. Et puis, je dois avoir 7 ou 8 manuscrits, mais aucun ne méritait d'être édité jusqu'à ce que je devienne papa et que finalement, j'accueille tout le matériel émotionnel en moi, que je m'accueille moi aussi, que je m'autorise des choses. Parce qu'avant, je m'autorisais peut-être beaucoup moins de choses. Tu vois, par exemple, depuis qu'on est tout petit, les garçons, on a tendance à leur dire, t'es un garçon, donc pleure pas, t'es un garçon. Tu vois, des trucs, accueillir ses émotions.
Alors, ça devait pas t'arranger, toi.
Ouais, mes parents me l'ont jamais dit, mais je l'ai ressenti en pression sociale. Tu vois, quand t'es à l'école, faut être un peu un dur, un truc, un machin. Et moi, quand je rentrais à l'école, quand j'étais au lycée, je regardais Top Gun en secrète dans ma chambre, et juste pour les scènes d'amour, et je pleurais devant. Et moi, le jour où je rencontrais une fille, j'allais me marier avec elle, quoi. J'ai eu 2 filles dans ma vie, une qui m'a brisé le cœur et l'autre qui l'a réparée.
Oh.
Tu vois.
Petit regard vers Marianne qui est très très fière.
Et je pense que j'ai mis du temps à accueillir mes émotions, à me dire que c'est ok de pleurer quand t'es garçon. Et finalement, comme l'accouchement, j'ai accouché de moi-même aussi. J'ai accouché de mes émotions et j'ai accouché de la possibilité d'écrire des beaux livres. Et le temps bleu, c'est ça, c'est l'histoire d'un accouchement.
Et toi, Marianne, est-ce que la maternité t'a révélé ? Est-ce que tu as changé quelque chose dans ton caractère ou même ta façon de vivre ?
Alors moi, je dis souvent que quand t'es enceinte, c'est une bulle de protection. Le ventre rond. Et je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, mais depuis que j'étais enceinte, en fait, ça m'a protégée. J'ai fait un burn-out, Alex, voilà, on parlerait mieux que moi.
Et tu l'appelles Captain Angoisse, je crois, Alex.
Ah oui.
Et donc, t'es moins angoissée depuis que t'as tes enfants?
Alors, paradoxalement, non. Parce que quand on a des enfants, on est un peu angoissée pour tout. Mais je sais pas, ça m'a permis, en fait, de prendre de la hauteur. Prendre une distance par rapport à beaucoup de sujets. Et notamment au niveau professionnel. Je pense que d'être maman, ça a fait de moi quelqu'un de meilleur. Un meilleur manager aussi. Parce que du coup, je suis très empathique avec mes équipes. Et bah tu quand t'es maman tu deviens multitâche,
tu les autorises même à prendre des pauses déj quoi.
Avant c'était le tyran.
Ouais, tu vois, franchement elle est quand même cool comme manager.
Non mais je veux dire,
j'imagine qu'ils attendent le troisième enfant avec impatience.
Moque-toi, mais tu vois quand tu deviens parent, tu deviens un pro de l'organisation. Ouais. Clairement ça devrait être un atout dans les CV en fait, tu sais,
c'est clair,
les soft skills
comme on dit dans les CV, mais c'est ultra important,
en fait.
Ultra formateur et oui, aujourd'hui je prends beaucoup de distance par rapport à plein de sujets qui avant me touchaient en fait émotionnellement au bureau. Je prends quand même plus soin de moi que je ne le faisais avant aussi, tu vois, même en termes je suis cadre dans une entreprise, une grosse entreprise de médias. Et j'ai énormément de boulot, mais il n'empêche que je m'arrête passer un certain horaire, je m'arrête je vais pas au sport. Prendre soin de moi, c'est pas ça. Prendre soin de moi, c'est aussi partir plus tôt pour pouvoir aller m'occuper de mes enfants, passer une soirée avec mon chéri.
Donc ça veut dire que tu te détaches de ton travail, toi qui étais un peu droguée au travail.
Ouais, exactement. Avant, je pouvais rentrer à 21, 22 heures, ça me posait aucun souci. Maintenant,
t'as reporté ton attention sur tes enfants. En
ouais,
fait.
Je dis pas que c'est tout le temps le cas parce que c'est super dur en fait d'être équilibré quand t'es une maman. T'as une espèce d'ambivalence permanente.
Ouais.
Puis t'as un jugement mine de rien sociétal. Hein, les entreprises comprennent pas forcément quand tu reviens de congé mat que tu sois moins performante alors qu'en fait t'as plus de cerveau clairement.
Plus de mémoire.
Plus de mémoire. Tu oublies tout. Enfin voilà. Après ça revient heureusement. Ouais. Mais ouais, aujourd'hui, être maman, ça m'a révélé, ça m'a posé. J'ai énormément lu aussi sur tout ce qui est fonctionnement du cerveau, ne serait-ce que pour comprendre comment fonctionnent mes enfants. Mais du coup, je me comprends aussi moi.
Beaucoup mieux, ouais.
Beaucoup mieux. Je comprends aussi les autres beaucoup mieux. Du coup, je suis plus patiente, je suis plus tolérante.
Je vais revenir sur le sport, parce que ça aussi, ça t'a transformée. Toi, t'as des enfants, et en même temps, t'arrives encore à faire du sport. T'arrives à écrire, à faire du sport. Je sais pas comment tu fais, mais en tout cas, c'est un travail.
Très tôt.
Ah, c'est ça. Est-ce que ça aussi, ça t'a donné des ailes?
Moi, j'ai toujours été sportif, très sportif. Et c'est plus que...
C'est un besoin pour lui. Hein.
C'est un besoin, et mes enfants ne m'ont jamais freiné dans ce besoin de faire du sport. Et au contraire, moi, je m'éclate à faire du sport avec eux.
C'est-à-dire, avec la poussette.
Je cours avec la poussette tous les week-ends. Je les emmène au parc à côté de chez nous. Pendant que je fais mes pompes, même ils font des pompes sur mon dos. On se fait des courses. En fait, on peut faire du sport avec des enfants. Moi, elle avait 3 mois. Je la mettais dans son landau et j'allais courir avec le landau. Donc, puis j'ai envie de leur transmettre ça. Je pense que les enfants, ils s'éclatent en plein air. Un enfant, il a besoin de voir la nature. Il a besoin de, et moi aussi. Et du coup, on est un peu comme des chiens fous, tu vois, le samedi, là, à 9h, Marianne, elle fout tout le monde dehors. On est comme 3 chiens fous, tu vois.
Tu vas pas, toi. Tu vas pas.
Moi, c'est ma pause.
Elle est chill avec son café. Et nous, pendant 2-3 heures, on est comme des fous. Et on revient, tu fais bien dépenser. Et puis, eux, comme ça, en plus, ils font une bonne sieste l'après. Mais nous, on est un peu tranquille, quoi.
Est-ce que la famille est au complet? Ou est-ce qu'il y aura peut-être un troisième enfant?
Non, la famille est au complet.
Ah, j'ai eu peur. Pardon, j'ai vu ta tête, je me suis dit, mais il est fou. Non, la famille est au complet, oui. Je pense qu'on a un super équilibre à 4. Après, on ne sait pas de quoi est fait la vie, mais aujourd'hui, on est bien.
Vous êtes bien.
Et puis, on veut revoyager, tu vois, aussi. On veut refaire des choses. On veut retourner faire des musées, des sorties. On en faisait beaucoup avec Ambre. Moins avec Swan. Donc là, maintenant qu'il a 2 ans, on peut bouger.
et comment vous cultivez votre couple, la fameuse question, et je sais qu'on vous la pose souvent, mais comme on vous voit sur Instagram beaucoup rigoler ensemble, poster des vidéos voilà, de choses que vous faites en famille, on imagine que c'est une, je sais pas, une préoccupation chez vous quand même d'avoir des moments à deux.
Alors on n'en a pas tant que ça, par contre on a des petits rituels, genre on a la chance quand même d'avoir des enfants qui se couchent tôt depuis toujours, depuis leur naissance en gros à 20h plus personne n'est debout et du coup en gros bah, c'est notre soirée en amoureux. Donc on a toutes nos soirées et bah c'est hyper fondateur en fait dans notre couple. Après on communique beaucoup. Moi je suis une psychopathe, voilà, je ça le saoule mais j'ai besoin de communiquer en fait. Donc
tu détailles tout.
Ouais, et je vais dire bah ça, t'as fait ça, je ressens ça. Enfin, c'est ultra important en fait d'exprimer ses émotions. Tu vois mon côté manager. J'exprime mon besoin, j'exprime mes émotions. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas tout rose. Comme je dis souvent les gens, ils ont l'impression qu'Alex il est parfait. Il est presque parfait, mais en fait, il écrit tous les mots que vous voyez, il les écrit, mais il ne me les dit pas.
Enfin, attends, t'exagères. Vous avez fait des déclarations d'amour par écran interposé, magnifique.
Oui, mais c'est aussi beaucoup par écrit, tu vois. C'est pas. Je sais pas.
Je vais pas me mettre à genoux tous les matins pour lui déclamer ce que j'ai écrit.
Ah, tu fais pas le parterre de roses tous les matins maintenant.
Mais tu vois, je pense que l'amour, t'as pas besoin tu vois, de grands gestes pour l'amour. Il se cultive au quotidien comme des petites graines qu'on plante, tu vois. C'est moi, ma Anne, tous les soirs, c'est moi qui fais à manger. Bah, pour moi, cultiver l'amour, c'est lui apporter son petit plat que j'ai mis de l'attention à faire et de l'avoir apprécié. Et c'est aussi bête que ça, en fait. Et je pense qu'au contraire, quand tu es constamment dans les grandes déclarations, c'est peut-être que tu as quelque chose aussi à prouver ou quoi. Alors qu'en fait, quand l'amour, il se passe de grands mots. Par contre, il ne se passe pas de petits gestes au quotidien, je pense.
C'est très vrai. Et pour finir, question ultime que j'aime poser en fin de podcast. Une grossesse sur le papier, c'est 280 jours. Tu dirais, Alexandre, qu'il t'a fallu combien de jours pour te sentir papa? Et toi, Marianne, pour te sentir maman?
Bah, après la naissance, 0 jour.
Donc J1 de la naissance
J1,
pour toi.
J1, j'ai compris. Par contre, pendant la grossesse, il m'a fallu, sur les 9 mois, il m'a fallu 2-3 mois, quoi. Tu vois, avant de comprendre que j'allais devenir papa.
D'accord. Et toi, Marianne?
Moi, je crois que j'ai réalisé que c'était concret au premier battement de cœur. Donc à l'échographie.
D'ambre.
D'ambre, ça devait être à 9 semaines, un truc comme ça. Quand t'entends ce papam, 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 que tu le vois, c'est juste le plus beau son de la Terre.
La grande aventure. Et Marianne va me refaire pleurer. Donc je vais rendre tout de suite l'antenne, comme on dit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez été autant émus et que vous avez aussi rigolé avec nous. Et bien entendu, vous pouvez retrouver tous les livres de Papa Plume avec ses beaux mots et ses belles descriptions. Merci à tous les deux.
Merci,
merci
Carole.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Mode Parent Activé, le podcast cofinancé par les produits laitiers et l'Union européenne, signé Chérie FM. Ensemble, nous avons une mission, lutter contre la sédentarité. Et pour cela, on vous raconte des histoires de parentalité qui bougent, mais pas que. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, ce serait quand même dommage de rater un épisode. Et si vous aimez ce podcast, allez, laissez-nous un petit commentaire, des étoiles, ça nous donnera un petit boost d'énergie pour la suite. Mode Parent Activé est disponible sur le site de Chérie FM et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Alors, à très vite!